VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue à l'édition du mardi 24 mars 2015. Idrissa Seydoudia et Morgane Guériec en votre compagnie. À la une ce soir.
Crash d'un avion de la compagnie allemande Germanwings dans les Alpes françaises. On estime à 150 le nombre de victimes.
En République centrafricaine, arrestation du ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture. Romaric Vomitjande est accusé d'avoir violé une mineure.
Les dirigeants des trois principaux partis d'opposition guinéens appellent à manifester contre le président Alpha Condé.
Les manifestations ne sont pas violentes, ce sont des Guinéens qui sortent dans la rue pour démontrer que nous sommes majoritaires dans ce pays aujourd'hui.
Au Sénégal, les avocats de Karim Wade se sont pourvus en cassation contre le verdict de 6 ans de prison infligé à cet ex-ministre et fils de l'ancien président Abdoulaye Wade.
Karim Wade ne peut pas être poursuivi pour des faits qu'il aurait commis alors qu'il exerçait une fonction gouvernementale et ensuite on le juge par une juridiction de droit commun.
Dans moins de 10 minutes, la Minute Éco et Jean-Roger Bion et les sports, Nicolas Pinot. Mais d'abord, le journal.
Actualité oblige, nous ouvrons sur le crash d'un appareil de la compagnie allemande Germanwings. On estime à 150 le nombre de victimes. L'appareil qui devait relier Barcelone en Espagne à Düsseldorf en Allemagne s'est écrasé dans les Alpes françaises. Présent à Paris, le roi Felipe VI d'Espagne a annulé sa visite d'État qu'il venait d'entamer en France. Il s'est exprimé sur le perron de l'Élysée avec François Hollande. On écoute le président français.
Il n'y aurait pas de victimes françaises, mais je n'en ai pas encore la totale certitude. Je veux là encore exprimer nos sentiments les plus tristes à l'égard des familles qui sont aujourd'hui dans le deuil ou dans l'attente. Tous les moyens sont mis en place pour connaître les circonstances de l'accident et retrouver les victimes. L'accident s'est produit dans une zone particulièrement difficile d'accès et les secours ne pourront être apportés que dans quelques heures.
Voilà, c'était François Hollande, le président de la France. Pour sa part, la chancelière allemande Angela Merkel s'est immédiatement déclarée bouleversée par la catastrophe, alors que le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, se disait consterné.
En République centrafricaine, arrestation du ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture, Romaric Vomitjande, sous mandat de dépôt depuis hier. Il est accusé d'avoir violé une mineure lors des opérations de consultation populaire à Yaloké. Le point avec Félix Yepassis Zembro.
L'affaire remonte au début du mois de février lors des opérations de consultation populaire à Yaloké, localité située à 222 km au nord-ouest de Bangui. Après le retour à Bangui de la délégation dirigée par le ministre Romaric Vomitjande, une radio locale passe le témoignage d'une fille de 16 ans affirmant avoir été violée par le ministre lors de ces opérations. L'affaire a fait un buzz dans le pays, mais le membre du gouvernement de transition a nié les faits. C'est finalement dans l'après-midi de lundi que Romaric Vomitjande, encore en fonction, sera arrêté et placé sous mandat de dépôt. Selon Maurice Dibert Dolé, procureur général près la cour d'appel de Bangui, l'enquête suit son cours et le chef du département du tourisme sera présenté très prochainement à un juge. Par ailleurs, le pays se souvient encore de cette date le 24 mars 2013, date à laquelle la République centrafricaine s'est enfoncée au cœur du chaos avec le renversement du régime de François Bozizé par la coalition des rebelles de la Séléka.
En Guinée, les dirigeants des trois principaux partis d'opposition appellent à manifester contre le président Alpha Condé. Dans une déclaration commune envoyée à VOA Afrique, les trois anciens premiers ministres, Sélou Dalène Diallo, Sidya Touré et Lansana Kouyaté, accusent notamment M. Condé de mépris total de l'autorité de la loi et de violations récurrentes des droits de l'homme, sujet sur lequel nous reviendrons en seconde partie d'émission.
Au Sénégal, les avocats de Karim Wade se sont poursuivis en cassation contre le verdict de 6 ans de prison infligé à l'ancien ministre et fils de l'ancien président Abdoulaye Wade. L'action est accompagnée d'un appel de l'ancien président sénégalais en rassemblement de l'opposition vendredi pour protester contre le verdict. Eddie Sango a demandé plus de détails à l'avocat de Karim Wade, maître Siré Clédorly.
Nous avons été dans une comédie judiciaire, et dans une démocratie. Ce n'est pas en fait élégant. Ce que nous combattons aussi, c'est que la juridiction n'est pas compatible avec les règles de droit international et les conventions qui ont été signées par le Sénégal et qui garantissent le droit à un procès équitable. Dès le départ, une juridiction internationale a eu à dire que la présomption d'innocence de Karim Wade a été violée, a rappelé l'état du Sénégal à l'ordre. Et ils ont refusé. Karim Wade ne peut pas être poursuivi pour des faits qu'il aurait commis alors qu'il exerçait une fonction gouvernementale et ensuite on le juge par une juridiction de droit commun alors que notre loi fondamentale, la Constitution, dit que lorsque des faits ont été commis dans l'exercice d'une fonction gouvernementale, alors c'est la Haute Cour de justice.
C'était Maître Siré Clédorly, joint par Eddie Isango. Au Nigeria, inquiétude grandissante autour des camps de déplacés dans le nord-est du pays, à 4 jours des élections présidentielles et législatives. Des engins explosifs ont récemment été découverts près de ces camps, alors que les forces de sécurité mettent en garde contre des combattants islamistes de Boko Haram infiltrés. Un survol de la situation avec Jacques Aristide.
Boko Haram peut perdre du terrain d'après l'armée nigériane, mais le groupe veut toujours perturber les scrutins du 28 mars. Les camps de déplacés sont une des cibles possibles, selon les experts en sécurité, d'autant que les déplacés du Nord-Est pourront déposer leur bulletin dans l'urne samedi, des bureaux de vote ayant été installés à proximité des camps de déplacés, comme annoncé par Atahiru Jega, le chef de la commission électorale indépendante. Mais à Maïdougouri, la plus grande ville de cette région et la capitale de l'état de Borno, les bureaux ont dû être installés à l'intérieur des camps pour des raisons de sécurité, a-t-il indiqué. Les militaires nigérians, soutenus par les armées de pays voisins, Tchad en tête, ont affirmé ces dernières semaines avoir repris de nombreux territoires conquis depuis l'an dernier par Boko Haram. Mais les insurgés, désormais affiliés au groupe État islamique, continuent d'attaquer des cibles vulnérables comme les gares routières et les marchés dans les grandes villes du Nord. Ce qui fait craindre de nouvelles violences à quelques jours des élections. Le gouvernement, par la voix du ministre Saminu Touraki, a promis aux électeurs que leur sécurité sera adéquatement garanti et qu'il leur faudra sortir samedi pour aller voter.
Nouveaux attentats en Égypte, dans le nord de la péninsule du Sinaï. 2 militaires ont été tués et 6 autres blessés dans l'explosion d'une bombe au passage de leur véhicule blindé. C'est ce qu'ont indiqué des responsables à l'AFP. Plus tard, des assaillants à bord d'une voiture ont ouvert le feu sur un policier.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Israël est accusé d'avoir espionné son plus grand allié, Washington, et d'avoir même tenté en coulisses de saboter tout éventuel accord sur le nucléaire iranien entre Téhéran, les États-Unis et les autres grandes puissances du P5+1. Les précisions de Lionel Gaïma.
Selon le Wall Street Journal, qui a publié cette information hier soir, des officiels de la Maison-Blanche disent avoir appris l'année dernière qu'Israël usait de la pose des micros, des informations des briefings américains confidentiels, d'informateurs et des contacts diplomatiques en Europe pour obtenir des détails sur les négociations avec l'Iran. Le journal précise qu'Israël a démenti avoir espionné directement les États-Unis, mais soutient avoir plutôt obtenu des informations en surveillant les leaders iraniens qui recevaient des mises à jour sur les pourparlers. Israël est farouchement opposé à tout accord avec l'Iran. Quoi qu'il en soit, la Maison-Blanche, plus que l'espionnage, est irritée par le fait qu'Israël ait partagé ses informations confidentielles avec des élus du Congrès, où de nombreux adversaires républicains du président Barack Obama sont hostiles à un accord, rapporte l'AFP.
Progression de la milice chiite des Houthis dans le sud du Yémen, où ses forces hostiles au président Abd Rabbo Mansour Hadi tentaient aujourd'hui de resserrer l'étau sur Aden, grande ville de cette région où s'est retranché le dirigeant yéménite. Les partisans de ce dernier se mobilisent pour enrayer la progression de ces rebelles. Les Houthis, qui contrôlent la capitale, Sanaa, cherchent désormais à étendre leur influence vers le sud du Yémen, avec l'aide des forces fidèles à l'ex-président Ali Abdallah Saleh.
Le Canada, membre de la coalition internationale engagée contre les combattants du groupe État islamique, va élargir sa participation à des frappes aériennes en Syrie, avec des moyens supplémentaires à ceux déployés jusqu'ici en Irak, rapporte l'AFP. Le Premier ministre conservateur Stephen Harper a demandé mardi au Parlement de voter l'engagement du Canada pour que le groupe État islamique ne puisse plus trouver refuge en Syrie.
Le président afghan Ashraf Ghani s'entretient aujourd'hui à la Maison-Blanche avec son homologue Barack Obama. À l'ordre du jour, la présence militaire américaine dans son pays. Monsieur Ghani et le chef de l'exécutif Abdullah Abdullah, qui sont à la tête d'un gouvernement de partage du pouvoir, ont conféré ce mardi avec de hauts responsables américains, dont le secrétaire d'État John Kerry, qui a qualifié ces discussions de productives. Il s'agit d'améliorer des relations bilatérales tendues après 14 années de guerre et des relations plutôt difficiles avec l'ancien président afghan Hamid Karzai.
Le Premier ministre britannique David Cameron n'est pas intéressé par un troisième mandat à 10 Downing Street si son parti conservateur venait à remporter les prochaines élections législatives. Dans une interview à la BBC diffusée lundi, M. Cameron s'est engagé à servir 5 ans en cas de victoire le 10 mai, disant qu'il voulait terminer le travail entamé sur des questions telles que l'éducation et la réforme de l'État-providence. Mais a-t-il expliqué, il arrive un moment où une nouvelle paire d'yeux et un nouveau leadership serait une très bonne chose et le Parti conservateur a de très bons éléments, dit-il, pour lui succéder. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco ce soir avec Jean-Roger Bion.
Les smartphones dopent le commerce électronique en Afrique, mais le continent reste à la traîne par rapport aux autres régions du monde. Notre rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, la CNUSED. La situation est préoccupante, d'autant que les craintes face à la cybercriminalité augmentent, ce qui freine les transactions. On écoute Cécile Barret El Chami, experte du commerce électronique à la CNUSED.
La particularité de l'Afrique, c'est qu'effectivement, il y a un commerce électronique naissant, mais l'Afrique souffre d'un faible niveau encore de pénétration d'Internet, ainsi que la livraison postale. Donc c'est les deux critères qui font défaut. On sait aussi que les cartes de crédit, la pénétration des cartes de crédit en Afrique est faible.
Cécile Barret-Helchami, experte du commerce électronique à la CNUSED. 3 Africains figurent dans le panel d'experts à la Banque islamique de développement, d'après l'agence APA. Ce sont le Sénégalais Jacques Diouf, ancien directeur général de la FAO, la Burkinabé Bintou Sanogo, ancienne ministre de l'économie et des finances dans les années 90, et la Guinéenne Aïcha Ba Diallo, ancienne ministre de l'éducation. Le panel est chargé de conseiller le président de l'institution financière sur les challenges du développement. Et Facebook discute avec plusieurs entreprises de médias pour tenter de les convaincre de publier leur contenu directement sur son réseau, plutôt que des liens renvoyant vers leur propre site, écrit ce mardi le New York Times. Des tests pourraient commencer dans les prochains mois, le quotidien faisant lui-même partie des premiers partenaires avec BuzzFeed et National Geographic, ajoute-t-il en citant des sources proches du dossier.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Jean-Roger Bion.
Place au sport avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane.
Michel Platini réélu à la tête de l'UEFA.
Michel Platini a été reconduit par acclamation pour un troisième mandat de 4 ans à la présidence de l'UEFA. À 59 ans, l'ex-triple Ballon d'Or a été désigné en marge du 39e congrès de l'UEFA à Vienne. Élu pour la première fois en 2007, Platini n'avait aucun adversaire.
Également présent, Joseph Blatter, président en exercice de la FIFA depuis 1998, qui brigue un 5e mandat.
Trois candidats se sont déclarés contre lui. Le prince Ali, un des vice-présidents de la FIFA, Michael Van Praag, président de la Fédération néerlandaise de football, et Luis Figo, ancien ballon d'or portugais. Le prince Ali de Jordanie a estimé ce mardi que la FIFA devait quitter son fonctionnement autoritaire. Selon lui, nous vivons un moment crucial à l'intérieur et à l'extérieur de la FIFA. Des voix s'élèvent contre la manière dont la FIFA est gérée. Il y a une volonté de changement. La FIFA doit être à la hauteur, a expliqué celui qui est vice-président de la FIFA lors d'un discours prononcé lors du congrès de l'UEFA.
Idrissa Seydoudia et Morgane Guériec, en votre compagnie, place au dossier du jour.
Les dirigeants des trois principaux partis d'opposition guinéens appellent à manifester contre le président Alpha Condé. Dans une déclaration commune, les trois anciens premiers ministres, Sélou Dalène Diallo, Sidya Touré et Lonsana Kouniaté, accusent notamment M. Condé de mépris total de l'autorité de la loi et de violations récurrentes des droits de l'homme. Je vous rappelle que le premier tour de la présidentielle est prévu le 11 octobre en Guinée. Et Nicolas Pinault a joint l'un des trois signataires de cette déclaration, Sidya Touré.
5 ans après l'arrivée d'Alpha Condé au pouvoir, nous n'avons jamais réussi à avoir un processus électoral transparent. Souvenez-vous, après la présidentielle, nous avons mis 2 ans et demi de manifestations, 60 morts pour arriver aux élections législatives, avec des accords signés par l'Union européenne, les Nations unies, tout ce qui s'ensuit, et qui n'ont jamais été respectés. Il était entendu qu'on devait passer par les élections communales par la même période, dans la mesure où ces élections, ces communes, ont leur mandat qui sont à échéance depuis 2010, qui ne sont toujours pas renouvelés. Et qu'est-ce que nous voyons, alors que nous étions tous prêts pour aller à ces élections? Un renversement complètement du chronogramme qui met les élections présidentielles avant, tout simplement parce qu'actuellement, en Guinée, les communes, les conseils municipaux sont remplacés par des fonctionnaires de l'administration au service de l'État et qui s'impliquent dans le processus électoral. Nous n'accepterons pas cela.
Est-ce que vous craignez évidemment des violences? N'est-ce pas irresponsable de la part de l'opposition?
C'est le rôle de l'État. Nous n'avons jamais, les manifestations ne sont pas violentes, ce sont des Guinéens qui sortent dans la rue pour démontrer que nous sommes majoritaires dans ce pays aujourd'hui contre ce régime. N'oubliez pas que malgré les tricheries qu'on a eues en Guinée, les 5 communes de Conakry sont occupées par l'opposition. Donc nous sortons pour démontrer que nous sommes présents sur la scène politique et que ce n'est pas de cette manière que la démocratie guinéenne va être conduite. Nous allons nous opposer à cela et faire en sorte que ces élections soient transparentes et qu'elles reflètent aujourd'hui la volonté des Guinéens d'aller à un changement de régime.
Vous avez dénoncé le dernier calendrier électoral. Pour le moment, ni la CENI ni le pouvoir ne semblent aller dans votre sens. Pourquoi ne pas boycotter la présidentielle?
Pourquoi voulez-vous qu'on boycotte quelque chose que nous pouvons remporter? Nous disons simplement, remettez les conditions en place pour que nous puissions aller aux élections. Le boycott n'a jamais fait partie de notre objectif.
Donc même si les élections locales ont lieu en 2016, vous irez à la présidentielle en 2015?
Les élections locales auront lieu en 2015. Elles n'auront pas lieu en 2016. Parce que les élections locales devraient avoir lieu depuis 2011. Si on ne les a pas tenues, on ne peut pas dire qu'à quelques mois de là, on s'est dit qu'on n'a plus le temps. Ça, c'était une volonté réelle de ne jamais les tenir. Il est constitutionnel de tenir des élections pour des mandats qui sont achevés. Les mandats des communales sont achevés depuis 2010.
Est-ce que votre réunion à Paris avec Lonsana Kouniaté et Sélou Dalène Diallo a permis déjà de former peut-être une alliance en vue d'un second tour éventuel?
Nous ne sommes pas encore à ce niveau, mais nous disons que nous serons unis et que nous allons travailler sur un gouvernement, disons en tout cas quelque chose qui réunisse l'ensemble de l'opposition pour faire une proposition alternative à ce que nous observons aujourd'hui dans notre pays.
L'opposant guinéen Sidya Touré est joint à Paris.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
En République démocratique du Congo, les forces congolaises continuent d'affronter les groupes armés étrangers et locaux dans l'est du pays. Des combats qui occasionnent des déplacements massifs de population dans la province du Nord Kivu. De Goma, le reportage de Primo Pascal Rodahigua.
Au nord de la province, dans les territoires de Lubero, les éléments F de l'air Foka en fuite kidnappent les paisibles citoyens pour s'en servir comme bouclier humain. Georges Muhindo, de la société civile de ce territoire, parle d'un danger à l'endroit de la population.
Depuis l'expiration de l'ultimatum lancé à l'endroit des groupes armés, il est enregistré plus d'atrocités qu'auparavant. Il y a des tueries, des enlèvements massifs, des viols, pillages, non seulement dans le territoire de Lubero, mais aussi dans ceux de Rutshuru, Iwalika, les voisins.
Vers le sud du Nord Kivu, principalement dans les territoires du Masisi, quelques notables s'inquiètent des nouveaux affrontements entre la milice APCLS de Janvier Karahiri et l'armée régulière. Bahani Wabo Bawas parle d'une situation humanitaire inquiétante.
Les massacres, les pillages qui sont en train de se faire sur le terrain, parce qu'aujourd'hui les gens sont en train de souffrir, les autres, la pluie tombe sur eux dans la forêt, et les autres se sont noyés même dans des rivières.
Dans l'autre territoire de Walikale, vers le sud-ouest, la situation humanitaire est également catastrophique. Le président de l'ONG locale Walikale Unie pour le développement, Alain Kitumaini, explique.
Ici à Pinga, il y a vraiment une déplacée massive de la population venue de Moussanga, Bese, Minova. C'est une population qui fout la guerre par des faits contre les FDLR. La situation est très catastrophique. Ils vivent vraiment dans une condition très défavorable. Il n'y a aucune assistance. Donc, ils vivent dans la rue. Les uns sont dans certaines écoles. Les autres dans leurs frères, mais il manque toute une assistance, il manque quoi vivre, ils ne savent même pas comment se prendre en charge.
Face à toutes ces difficultés, les acteurs de la société civile invitent le gouvernement à plus de responsabilités pour la protection des civils. Georges Muhindo.
Au gouvernement congolais, d'asseoir un mécanisme de protection des civils au moment des opérations de traque des groupes armés.
Depuis Goma, Primo Pascal Rudahigwa, La Voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
En Côte d'Ivoire, environ 600 étudiants en médecine ont exprimé leur ras-le-bol face au manque de matériel qui les pénalise depuis la reprise des cours à l'université d'Abidjan-Cocody. Un mécontentement exprimé au cours d'une conférence de presse animée par le secrétaire général de leur syndicat d'Abidjan. Voici la correspondance de Germaine Drey.
Vêtus de blouses blanches avec des bandeaux et brassards rouges, les étudiants en médecine de l'université de Cocody ont décidé de lever le ton pour être au parfum de ce qui se trame sur leur sort. Il ressort de leur déclaration qu'ils ont été oubliés. Ebedi Didier, secrétaire général du syndicat national des enseignants en sciences de la santé, SINES.
Notre avenir ne se fait pas pris en compte dans tout ce que le gouvernement faisait. Ça fait bientôt près de 6 mois que des étudiants ne vont pas au cours à cause du manque de matériel au sein de l'université de Cocody. Nous sommes assemblés pour créer notre ras-le-bol, pour dire aux autorités qu'actuellement il y a un réel problème au sein de nos facultés. 2 ans que nous sommes dedans, c'est-à-dire 2 années, on n'a fait que la théorie sans faire de pratique. Pour un étudiant de médecine, pour un étudiant de pharmacie, pour un étudiant d'odontostomatologie, la théorie sans la pratique, c'est comme si la formation était bâclée.
Et si Eric, étudiant en thèse de pharmacie, craint une année blanche.
Pendant que l'université fermait, au niveau de l'UFR de pharmacie, il nous restait que 3 mois pour terminer notre année universitaire. Ils ont demandé que les universités soient fermées pour réhabilitation. On a supplié et ils n'ont pas fait. On avait fini en ce moment la grande majorité du programme. Et ils ont mis tout le compteur à zéro quand on a repris en 2012-2013. Concrètement, aujourd'hui, on veut nos laboratoires réhabilités pour qu'on reprenne l'année. Et on ne souhaite pas qu'on fasse une autre année blanche. Depuis lors, nous sommes à la maison, il n'y a pas de cours, il n'y a pas de TP.
Les étudiants ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Ebedi Didier.
Demain, une marche sera organisée avec un sitting au plateau.
Germaine Drey, Abidjan, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, plein feu sur les élections nigérianes du 28 mars. Enjeu et acteur clé, le Nigeria choisira-t-il la continuité ou l'alternance? Qui de Jonathan ou de Buhari l'emportera? Boko Haram de Shekao jouera-t-il le trouble fête? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Les agences humanitaires tirent la sonnette d'alarme au Soudan du Sud. Plus de 2,5 millions de personnes y sont menacées par la faim, conséquence de la guerre civile qui a éclaté en décembre 2013. Jean-Roger Bion.
Le dernier recours des populations pour se nourrir à Lakien, un territoire occupé par les rebelles, ce sont souvent des feuilles d'arbres. Les mauvaises récoltes, la guerre et les difficultés d'approvisionnement ont poussé les humanitaires à classer la crise alimentaire au Soudan du Sud au niveau 3, deux échelons en dessous de la famine. Niabiel Macha raconte qu'elle et sa famille sont à court de provisions et n'ont aucun revenu pour la nourriture.
Il n'y a pas d'emploi ici et pas d'argent. Nous recevons très peu de soutien. Je vais survivre sur ce que je peux obtenir de la forêt, les fruits et les feuilles sauvages.
La ville se situe au cœur d'un bastion de l'opposition où des soldats rebelles, pour la plupart de l'ethnie noire, ont pris les armes contre le gouvernement du président Salva Kiir. La zone étant assiégée par les forces gouvernementales, la ville est de plus en plus isolée. L'activité ambiante est trompeuse. On est vraiment au bord de l'insécurité alimentaire, comme l'explique le coordonnateur humanitaire local, War Biel Pam.
Si vous étiez venu avant la crise, vous auriez vu que le marché était grand. Il y avait beaucoup de nourriture, beaucoup de produits, mais aujourd'hui, c'est la pénurie. Les gens sont nombreux, vous pouvez voir beaucoup de gens qui se déplacent. La densité est forte et la nourriture fait défaut.
Jusque-là, le largage aérien de nourriture par les avions des Nations Unies et la distribution des aliments secs de base ont permis d'éviter le pire. Mais les livraisons n'arrivent pas dans les délais et les derniers stocks sont au bord de la rupture. Les groupes humanitaires cherchent des moyens de mieux soutenir la population durant la prochaine saison des pluies. Alberto Marker est du groupe Oxfam.
Si nous n'arrivons pas à pourvoir des rations alimentaires directes ou tout autre soutien, alors il faudrait envisager de donner de l'argent, peut-être en donner aux commerçants, pour s'assurer qu'ils achètent beaucoup de ces produits pendant la saison sèche, de sorte qu'il subsiste encore des produits sur le marché pendant la saison des pluies.
Les pluies ne sont pas attendues avant le mois de mai, ce qui signifie qu'aussi longtemps que les provisions de nourriture tarissent et que le conflit bloque l'accès à la région, les gens ici vont continuer à souffrir pour survivre.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Salut les amis, ici Roger Muntou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Cette semaine dans Antenne Libre, la liberté d'expression. Nous parlerons sur l'actualité du mouvement burkinabé Ballet Citoyen, du mouvement Yanamar du Sénégal et du mouvement Filibi de Kinshasa. Vos points de vue cette semaine dans RM Show, vos commentaires sur notre page Facebook Roger Muntou, la voix de l'Amérique et vos SMS au 225-58-92-85-40. Encore une fois, c'est les 225-58-92-85-40. Il y aura aussi de la bonne musique rap. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel. Appelez au 001-202-619-3140. Restez branchés sur VOA Afrique. Peace Africa.
Un rappel de quelques grands points de l'actualité.
Nous parlons évidemment de ce crash d'un appareil de la compagnie allemande Germanwings. On estime à 150 le nombre de victimes. L'appareil qui devait relier Barcelone en Espagne à Düsseldorf en Allemagne s'est écrasé dans les Alpes françaises. Présent à Paris, le roi Felipe VI d'Espagne a annulé sa visite d'État qu'il venait d'entamer en France. Il s'est exprimé sur le perron de l'Élysée avec François Hollande. Pour sa part, la chancelière allemande Angela Merkel s'est immédiatement déclarée bouleversée par la catastrophe, alors que le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, se disait consterné.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui. Présentation Morgane Guiriec et Idrissa Sedoudia.
Ainsi va le Monde Aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voafrique.com.
écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayegouya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.